Chapitre 30 La Kungas, les naufragés. La fâcheuse nouvelle laissa Francis Drake et sa fille sans voix. Ils se demandaient si, après tant de souffrances et de tribulations, ils allaient échouer au port. Cependant, il fallait agir et vite, car Francis Drake, aussi bien que Margaret, était arrivé à la limite de leur endurance. « Nous voilà dans une impasse, » murmura enfin le banquier. « Vous avez une idée, monsieur Fernot ?»« Oui, » répondit le Canadien, « et je pense réussir. Autant vous en faire part. Il est à peu près minuit. Nous avons plusieurs heures devant nous. Nous allons profiter de l'obscurité pour gagner la petite crique qui est au nord du cap Rasmanoff. C'est à moins de 3 verges d'ici. » Il y en a plusieurs Kungas échouées. Elles appartiennent à des pêcheurs Gilliac. Nous nous emparerons de l'une d'elles et voguerons vers le large. Si, pour prendre cette embarcation, il faut combattre, eh bien, nous combattrons. C'est notre vie qui est en jeu. Avez-vous quelque chose d'objection à faire à mon projet, miss ? Et vous, miss Ray ? Le père et la fille, ensemble, répondirent que non. Alors, partons de suite, conclut Fernot. « Et vous me permettre de vous offrir mon bras, miss ?» Les 3 verstes furent longues à franchir par les infortunés. Plusieurs fois, Francis Drake s'affaissa et ne se releva qu'avec peine. Quant à sa fille, elle fut tombée pour toujours, sans le soutien du Canadien. Les fugitifs atteignirent enfin le fond de la crique dont avait parlé Fernot. Dans un creux du terrain, entre 2 hautes falaises toutes noires et coiffées d'une couche de neige, une 30aine de misérables cases posées de guingois étaient disséminées. Aucune lueur n'en sortait. Sur l'étroite plage s'étendant autour de la crique, des taches noires se distinguaient. Mais il fallait l'œil perçant du Canadien pour deviner que c'était des embarcations échouées. Fernot et ses compagnons contournèrent les cases, avançant avec circonspection, pour éviter de heurter les pierres cachées sous la neige. Ils furent enfin sur la plage, et Fernot, sans hésiter, avisa la plus petite des Kungas, une embarcation plate et ronde et surmontée à l'arrière d'une sorte de dôme fait de lattes de roseaux. Au centre, un mât tout nu se dressait. Ainsi que les autres, l'embarcation se trouvait à 10 mètres de l'eau. Pour la mettre à flot, de grands efforts seraient nécessaires, malgré sa petitesse. « Celle-là !» fit Fernot en désignant la Kungas de sa main libre. « Vous et votre père, miss, vous allez m'aider à la pousser à l'eau. » Et Fernot, ayant lâché le bras de la jeune fille, s'élança vers l'embarcation dans laquelle il sauta. Un cri rauque, le bruit d'une lutte violente, la Kungas s'oscilla comme si elle eût été ballottée par la tempête. Margaret Drake courut vers l'embarcation, mais, comme elle s'apprêtait à courageusement à escalader le bordage de la Kungas, Fernot jaillit du dôme, occupant l'arrière de l'embarcation. « De rien » assura-t-il. « Oui, il y avait 2 Gilliac dans la Kungas. J'ai pas eu trop de peine à m'en débarrasser. Ils sont un peu assommés, ma foi, mais... je ne les crois pas gravement atteints. Je suis allé seulement avec mes poings. Il y a 2 paires d'avirons dans la Kungas et une voile de paille tout enverguée. C'est tout ce qu'il nous faut. » Fernot, se disant, remonta dans la barque, souleva les corps inanimés des Gilliacs et les fit glisser sur le sable, par-dessus le bordage. Il sauta aussitôt à terre et, ayant pris 2 billets de 100 roubles dans le portefeuille enlevé à Grigoriev, les introduisit sous les chemises des pauvres hères. La mise à l'eau de la Kungas fut plus facile que ne l'avait cru le Canadien. La basse température avait durci le sable que recouvrait une mince couche de glace. La Kungas glissa sans peine. D'un dernier effort, Fernot la poussa à l'eau. L'un après l'autre, les fugitifs, non sans s'enfoncer jusqu'aux genoux dans l'eau glacée, prirent place dans l'embarcation. L'air était calme, malheureusement. Pas le plus petit souffle de vent. « Installez-vous dans la cabane, » dit Fernot en désignant le grossier dôme occupant l'arrière. « Je me charge du reste. » Fernault arma les avirons, deux rames longues de près de 4 mètres chacune et lourdes en proportion. Malgré son épuisement, il saisit vaillamment les avirons et rama. La Kungas, grâce à son faible tirant d'eau, glissa assez rapidement sur l'eau calme de la crique. Mais elle n'avait pas franchi 300 mètres que du rivage, des hurlements furieux s'élevèrent. Les deux Gilliac, qui étaient revenus à eux, manifestaient leur fureur en voyant leur Kungas qui s'éloignait. Perrault n'en rama que plus vigoureusement. L'excès même du péril ranima ses forces défaillantes. Cependant, les clameurs, loin de décroître à mesure que la barque s'éloignait du rivage, augmentaient d'intensité. Tout le village, maintenant, devait être éveillé. Sur la plage, de nombreuses ombres couraient de tous côtés autour des Kungas échoués. Les fugitifs allaient être poursuivis, Fernault le comprit, mais se garda bien de dire un mot. Il put bientôt voir que plusieurs Kungas étaient poussés à l'eau, et ce fut tout ce qu'il vit, car il avait atteint l'extrémité de la haute falaise qui, vers le sud, fermait la crique. D'un coup d'aviron, il fit pivoter les Kungas vers le large et les rocs lui cachèrent le fond de la crique. De l'autre côté de la falaise, un vent très vif soufflait. La mer était démontée. Mais Fernault, loin de s'en affliger, s'en réjouit. Ou il périrait, ou il distancerait les Kungas lancés à sa poursuite. « Mr. Drake !» cria-t-il. « Venez, à vous, venez prendre le timon. Je vais hisser la voile. Et vous, miss, si vous avez assez de force, prenez ce seau qui est là et tenez-vous prête à vider l'eau qui ne va pas tarder d'embarquer. Le vent est bon. Si nous ne nous noyons pas, dans 3 jours, nous serons en sûreté dans un port du Japon. » Cette dernière phrase fit plus que le meilleur cordial pour animer les forces défaillantes du banquier et de sa fille. Tous deux s'élancèrent hors de la cabane. Le père prit aussitôt le timon, une épaisse carre de bois horizontale plantée dans la mèche du gouvernail. Fernault coupa de son poignard les liens d'écorce, maintenant la voile enroulée autour de la vergue. Ayant saisi l'extrémité de la corde du palan servant à hisser la vergue, hala de toutes ses forces. La vergue fut à la cime du mât, cependant que l'épaisse voile de paille claquetait violemment à la brise. Fernault, ayant attaché la drisse à un des bancs de la Kungas, saisit l'écoute au vol et la tira à lui. Instantanément, la voile se gonfla, faisant dangereusement pencher les embarcations. Francis Drake, heureusement, possédait quelques notions de navigation à prise à bord de son yacht. Il mit la barre dessous, ce qui soulagea un peu la Kungas, qui se redressa au moment où Fernault allait lâcher l'écoute pour éviter de chavirer. « Bien ça, Mr. Drake !» s'écria le Canadien, qui pria le banquier de prendre sa place à l'écoute et de lui passer la barre. L'échange se fit non sans difficulté, car la Kungas, poussée par la brise, bondissait maintenant d'une lame à l'autre, piquant du nez, plongeant, roulant avec une violence sans cesse accrue. Mais elle filait bon train, et c'était le principal. Mais le péril était loin d'être passé. 3 grosses Kungas venaient de sortir de la crique, et leur voile hissée bondissait à la poursuite des fugitifs. Elles gagnaient peu à peu sur eux, grâce à leur fort tonnage qui leur permettait de porter davantage de toile. Mais Fernault était un excellent manœuvrier. Il réussit à serrer le vent de telle sorte qu'en moins d'une heure, les Kungas furent hors de vue. Mais c'était maintenant un véritable ouragan. La mer ne formait plus qu'une suite de tourbillons d'écume que le vent tordait et creusait avec une irrésistible puissance. Dans le ciel débarrassé de nuages, les étoiles scintillaient. C'était une belle tempête de nord-est, et d'autant plus dangereuse pour la Kungas que le vent tendait à la faire dériver vers la côte sakhalinienne. Fernault rageait. Son impuissance contre le vent de la mer l'emplissait de fureur. À contre-cœur, il passa la barre à Drake afin d'abaisser un peu la voile et de diminuer ainsi la surface offerte au vent. Mais il s'était décidé trop tard. Comme il entreprenait de détacher la drisse, une rafale arriva sur la Kungas et la fit presque chavirer du coup. Un craquement retentit et la voile, arrachée de sa vergue, s'envola comme un immense oiseau noir. La Kungas se redressa, tandis que Fernaud retenait une imprécation. Le malheur, décidément, s'achardait sur les fugitifs. Privée de sa voile, la Kungas n'était plus qu'une épave impossible à manœuvrer, que le vent et la mer repoussaient impitoyablement vers la côte de Sakhaline. Au jour, la tempête redoubla de fureur. La Kungas dérivait rapidement vers la côte de Sakhaline. Francis Drake et Margaret, sur les instances du Canadien, s'étaient réfugiés à l'arrière de la Kungas. Étendus sur les fourrures que recouvraient deux pieds d'eau, ils ne bougeaient pas, recevant stoïquement les embruns et les paquets de mer. Car le toit de l'âne de la cabane avait été emporté comme un fétu, et plus rien n'abritait le banquier et sa fille. Fernaud restait debout, cramponné au pieu, servant de mât. Il ne se faisait pas d'illusions. Dans une heure, dans deux au plus, la Kungas serait jetée sur les rocs, ceinturant les falaises. Et cela, aucune puissance au monde ne pouvait l'empêcher. Au cours de la matinée, pourtant, le vent tourna un peu vers le sud. La mer cessa de grossir. Mais la Kungas continua sa dérive vers la terre. Un peu après midi, les rocs défendant les falaises ne furent plus qu'à quelques centaines de mètres de l'embarcation. Fernaud s'approcha de Francis Drake et de sa fille. Les malheureux étaient presque sans connaissance. Ce fut difficilement que le Canadien parvint à leur faire comprendre ce qu'il voulait tenter pour essayer de les sauver. « Je vais déboîter le mât de son emplanture, » expliqua-t-il en hurlant de toutes ses forces pour se faire entendre. « Vous attacherez tous deux au mât et vous pousserez à l'eau. Je vous rejoindrai ensuite et ferai tous mes efforts pour passer avec vous à travers la ligne de récifs. »
« Nous serons de nouveau à Sakhaline !» murmura Margaret Drake. « Oh non, j'aime autant me noyer !»«
Oh, mais c'est moi qui... » Fernaud se mordit les lèvres et brisa là l'entretien. Démater la Kungas eût été déjà une rude opération pour un seul homme. Fernaud comprit la difficulté, la presque impossibilité de la tâche qu'il avait assumée. Mais il vit aussi Margaret Drake, pâle, presque exsangue, étendu sous les coups de mer, sans défense, son pauvre corps frissonnant à chaque paquet d'eau. Sans lui, la mort était certaine. Il se raidit et, s'étant placé à plat ventre sur un des bancs, desserra les étais, maintenant le mât. Le pieu, libre dans son emplanture, craqua lugubrement sous les secousses du roulis. Fernaud se mit debout sur le banc dans lequel était planté le mât. Il s'arc-bouta sur ses jambes écartées, ayant ramassé tout ce qui lui restait de force, embrassa le pieu ruisselant, le serra désespérément contre lui et d'une formidable secousse l'arracha de son emplanture. Mais un sursaut de la Kungas lui fit perdre l'équilibre. Il trébucha, entraîné par l'énorme poids du mât, ouvrit les bras et tomba dans le fond de l'embarcation. Un cri perçant retentit, poussé par Margaret Drake. Fernaud, confus, mais sans blessure, se releva. Il vit à ses côtés la jeune fille qui avait bondi vers lui. Il n'eut que le temps de la saisir par le bras pour l'empêcher d'être précipité à la mer par le roulis.
« Ce n'est rien, miss, » balbutia-t-il en cherchant ses mots. « Ce n'est rien. Cramponnez-vous au banc. Je vais détacher les étais du mât. Je vous attacherai ensuite avec votre père. Tenez-vous bien. »
Marlène Drake ne répondit pas et, sans cesser de regarder le Canadien, crispa ses mains au bordage de la Kungas. Fernaud eut vite fait. Malgré l'effrayant roulis, il parvint à coucher le mât longitudinalement dans un sens parallèle à la quille de l'embarcation. Il le plaça le long du bordage, de façon qu'il pût facilement le pousser à la mer, Puis il fixa, à 1 mètre de distance les uns des autres, 3 forts câbles qui devaient servir aux naufragés à se cramponner. Margaret Drake et son père furent attachés chacun de ces câbles. Et Ferdo, profitant d'une courte accalmie, fit basculer le mât dans les flots, cependant que Margaret et son père y sautaient en même temps. Ferdo vit le mât plonger et disparaître entre 2 vagues, entraînant les 2 créatures humaines qui étaient accrochées. Il reparut à la crête d'une lame, plusieurs mètres plus loin. Le Canadien se lança à la mer. En quelques brasses, il rejoint Drake et sa fille et saisit l'extrémité de la corde qu'il avait nouée à son intention autour du mât. Il put voir alors que Francis Drake avait perdu connaissance et que Margaret ne valait guère mieux. Il s'approcha successivement du banquier et de sa fille et les attacha de telle façon que leurs têtes fussent autant que possible hors de l'eau. C'était tout ce qu'il pouvait faire pour le moment. La Cungas, cependant, qui offrait plus de prise au vent que le mât, n'était plus déjà qu'à quelques mètres des rocs. Les naufragés la virent s'élever sur la croupe écumante d'une lame, puis retomber sur une tête de rocher et s'y écraser. Ce spectacle n'était guère encourageant pour les infortunés. Il leur donnait une idée de ce qu'allait être leur propre sort. Ferno, poussant devant lui le mât, s'efforça de le diriger vers l'espace libre, s'étendant entre 2 rocs dont les pointes se distinguaient, entourés d'un halo d'écume. Il y avait là une sorte de brèche dans la ligne des récifs, large d'une 30aine de mètres, moins que rien. Mais la mer elle-même se fit l'auxiliaire du vaillant Canadien. Une série de 3 lames énormes souleva le mât, et le lança comme un projectile contre les écueils. Les naufragés, croyant leur dernière seconde venue, furent projetés en avant comme par un catapulte, et sans savoir comment, se trouvèrent soudain en eau calme, à quelques mètres à peine d'une étroite bande de sable jaune. Ferno, d'un dernier effort, parvint à pousser le mât jusqu'à ce qu'il échoua. Ayant pris pied lui-même, il constata que Margaret Drake et son père étaient inanimés.